Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, suite du 74e débat de haut niveau à l'Assemblée Générale et notre tour d'horizon des orateurs francophones, avec les interventions des présidents du Tchad, de la République centrafricaine et du Mali. En dossier, nous recevons le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Battel.
Mesdames et messieurs, l'élimination de l'extrême pauvreté.
Le dialogue de haut niveau sur le financement du développement ouvert ses portes en marge du débat de l'Assemblée générale ce jeudi. Objectif, convaincre les pays de dépenser leur argent dans des domaines en lien avec les 17 objectifs de développement durable tels que prescrits dans l'accord d'Addis Abeba. Un sujet d'ailleurs abordé par le président du Tchad, Idriss Déby Itno, à la tribune de l'Assemblée hier, avertissant que notre rêve commun de bâtir un monde stable et paisible est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude, et soulignant que la question de la pauvreté est liée à celle des crises, des conflits, des migrations et des dérèglements climatiques. Idriss Déby Itno.
Les ressources à mobiliser à cet effet sont bien à la portée de la communauté internationale pourvu qu'elle fasse preuve de volonté, de détermination et de solidarité. À cet égard, les priorités en attente de l'Afrique que partage mon pays sont bien connues et même consignées dans le plan d'action d'Addis Abeba pour le financement du développement. 4 ans après l'adoption de l'agenda 2030, les résultats attendus sont loin d'être au rendez-vous. L'absence des avancées sur tous les plans est plus que préoccupante, alors que nos attentes en matière de développement sont plus que pressantes. Comment peut-on prétendre combattre la pauvreté si les engagements pris à cet effet dans le cadre du plan d'action d'Addis Abeba ne dépassent jamais le stade de promesses?
I have the honor to welcome to the United Nations.
Lors du débat cette année, de nombreux États ont remis en question la valeur du multilatéralisme, prônant les intérêts nationaux en opposition et par-dessus tout. À la tribune, le président de la République centrafricaine a lui affirmé qu'il était clair que la conjugaison des efforts des États membres de l'organisation dans le cadre d'une action multilatérale est la clé de voûte pour un monde plus juste, plus équilibré et plus sûr pour tous et pour chacun. Ces efforts ont permis à son pays de jouir des premières dividendes de la paix. Faustin Archange Touadéra.
J'en veux pour preuve la mobilisation de la solidarité internationale qui a permis à mon pays d'ouvrir une nouvelle page de son histoire grâce à la signature, sous l'égide de l'Union africaine, de l'accord politique pour la paix et la réconciliation entre mon gouvernement et les 14 groupes armés le 16 février 2019. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour la mise en œuvre de cet accord avec l'appui des garants, l'Union africaine et la CEAC, et des facilitateurs, au premier rang desquels figurent les Nations unies, à travers la MINUSCA. En bénéficiant de l'appui de nos partenaires, de la sous-région et du monde entier, nous enregistrons des progrès, certes modestes, mais sûrs, au sujet de l'extension de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, des réformes dans les secteurs de la sécurité et de la défense, lesquelles faciliteront le redéploiement progressif des forces de défense et de sécurité, ainsi que la poursuite du programme national du DDR déjà amorcé. Aussi, nous nous félicitons du lancement des programmes de développement récemment effectués pour démontrer que les premiers dividendes de la paix sont une réalité.
S'il faut en croire l'adage selon lequel c'est dans les temps difficiles
C'est dans les temps difficiles que se relèvent les amis, c'est ce qu'a notamment déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'Assemblée générale hier soir, évoquant l'appui multiforme politique, diplomatique et militaire de la communauté internationale depuis que le pays tente de se relever de la crise en 2012, des efforts qui ont mené à l'accord de paix d'Alger, feuille de route pour la sortie de crise. Pour autant, long reste le chemin pour assurer une paix durable, a lamenté M. Keïta. Il a donné sa lecture de la crise qui s'étend désormais au centre du pays.
Les motivations de ces groupes terroristes n'ont que peu à voir avec la religion et encore moins avec le développement. Je note que le Mali est islamisé depuis le 11e siècle. L'enjeu pour eux est en réalité de se doter d'espace pour faire et prospérer leurs activités criminelles et surtout le narcotrafic, y compris le trafic d'armes également et d'êtres humains, en marchandises illicites, en profitant de la faible présence de l'État, singulièrement des services de défense et de sécurité dans les régions concernées. des affrontements activement baptisés tensions intercommunautaires qui ont hélas endeuillé les régions de Ségou et de Moti ont eu, au-delà de ces localités, touché la nation malienne toute entière. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement du Mali de prendre une série de mesures au plan politique, sécuritaire, réglementaire et judiciaire afin de rétablir l'ordre et la sécurité dans ces régions affectées. Le renforcement du dispositif de sécurité sur le terrain, la création de nouveaux postes de sécurité dans les zones stratégiques et l'adhésion de plusieurs centaines de jeunes locaux au programme spécial de réduction de la violence intercommunautaire s'inscrivent dans ce cadre. Il en est de même de la récupération de nombreuses armes, du désarmement en cours des milices, des actions de développement et de la fourniture de services sociaux de base au profit de nos populations, toute opération qui vise à mieux répondre aux défis de la gouvernance et de la sécurité.
Le Premier ministre du Luxembourg est cette semaine à l'ONU pour le débat général et les réunions de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, Xavier Bettel a participé à la présentation de l'initiative « Mettre fin à la haine ». Dans un entretien accordé à ONU Info, le chef du gouvernement luxembourgeois revient sur l'importance de lutter contre les discours de haine proférés à l'encontre des LGBTI, des migrants et des réfugiés. On écoute Xavier Bettel au micro de Pascal.
Ce qui me fait de la peine, c'est de voir que certains politiciens font des différences leur fonds de commerce. Quand je vois que certains partis ont du succès en disant qu'il n'y a que les catholiques qui sont bons et tout le reste c'est mauvais, que l'homosexualité c'est une maladie, que la femme limite, ça me rend malade. Moi je fais partie de ceux, vous savez, je n'ai pas choisi d'être homosexuel, hein. Je suis né comme ça, ça n'a pas été un choix, je ne suis pas levé un matin en disant que je suis homosexuel, donc j'ai déjà dû m'accepter. Et je ne demande pas aux gens de me juger sur... Je demande aux gens de juste m'accepter, c'est tout. Moi, je prends rien à personne en demandant des droits aux autres. Quand je vois le nombre de suicides chez les jeunes, parce qu'ils ont du mal à s'accepter, mais même aussi la religion aujourd'hui, être... En fait, le respect d'accepter l'autre tel qu'il est. Et vous savez, on célèbre les 75 ans de libération de l'Europe. On ne doit pas oublier que dans mon pays, même et en Europe, être... Moi, j'avais un grand-père juif, j'étais étant homosexuel, être libéral, moi, j'étais condamné à mort 3 fois. Et aujourd'hui, je suis libre devant vous à pouvoir parler. Donc, ce projet européen qui est l'Europe depuis 57, le fait du respect, quelque chose qui est important, donc le respect de l'état de droit, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus quand, au niveau de l'Union européenne, on a certains pays même qui commencent un peu à avoir des interprétations qui me posent problème.
Alors, justement, le Luxembourg est un état fondateur de l'Union européenne. Et votre pays, à plusieurs reprises, a souligné l'importance de la solidarité entre ses États membres, notamment sur la question de la migration. Pensez-vous que les États européens pourront mettre en œuvre les mécanismes efficaces pour mettre fin au drame des migrants et des réfugiés aux portes de l'Europe ?
J'ai pas envie que la mer Méditerranée devienne le cimetière de l'Europe. Et pourtant, on est en train de le transformer, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et encore une fois, ce sont des gens qui font de la politique là-dessus. Alors c'est sûr, on doit avoir des solutions. Et on ne peut pas dire que l'Italie et la Grèce sont responsables parce qu'ils ont des frontières avec la Méditerranée. Non. Et que nous, dans le Nord, on n'a rien à voir avec. L'Europe, ce n'est pas que recevoir, c'est aussi savoir donner. Et on a besoin juste de mécanismes stables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ne sachant pas... c'est terrible. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand je vois un téléphone d'un chef d'État étranger, je me dis, le dimanche soir à 20h ou 22h, je me dis combien de réfugiés va me demander de prendre. De me dire qu'on en arrive à ce niveau-là. C'est triste. C'est triste. Alors qu'on devrait avoir un mécanisme en disant, écoutez, on a une répartition, on sait que dans tel pays, on arrivera à les accueillir dignement, qu'il y a une perspective. Mais on doit aussi, en fait, combattre le fléau des trafiquants qui, en fait, gagnent de l'argent sur les plus pauvres. Et il ne faut pas oublier qu'il faut se mettre dans la peau aussi de ces gens qui quittent. Vous savez, moi, si on me disait, ces gens ne cherchent pas une meilleure vie, ils essaient de survivre souvent et d'avoir une vie. Et je pense que l'Europe peut supporter, mais qu'on doit s'organiser. Je ne peux pas dire que les pays qui sont primo-accueillants sont ceux qui sont responsables pour tout. On a besoin de ça, parce que dans ce cas-là, on fait on donne de l'eau au moulin aux populistes aussi. Donc on a besoin d'une solidarité. Et de me dire que l'Europe, ils veulent que des réfugiés qui ont telle couleur, telle religion. Il ne faut pas oublier qu'on a tous été dans notre histoire un jour réfugiés, presque. Presque partout. Partout. Nous aussi. Même les Luxembourgeois. On était un pays pauvre. Et on est parti aux États-Unis, on est parti ailleurs parce qu'on n'avait pas assez de nourriture chez nous. Nous aussi. Et je pense que chacun était un jour réfugié dans son histoire.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.